Si vous êtes réveillé depuis un bon moment déjà, il est 8h. Et nous sommes le mercredi 3 avril et la météo est définitivement printanière. En tout cas, ça va évoluer positivement, Anne.
Absolument, Hugo. Les quelques gouttes du matin vont s'estomper rapidement pour laisser la place à de belles éclaircies cet après-midi. Et les maxi repassent au-dessus des 20 degrés.
21 degrés, ce sera le record de température aujourd'hui à tendre du côté de Carpentras. D'autres maxi qu'on vous donne. Et puis les températures du matin, juste après ce rendez-vous de l'info avec Anne Domès. Anne, des abricotiers qui poussent sous des panneaux solaires et ça sur plusieurs hectares.
Ah, c'est le drôle de paysage qu'on peut voir à Cavaillon. L'entreprise Sunagri a installé des panneaux photovoltaïques au-dessus d'un verger sur l'exploitation Saint-Félix de Michel André. Alors ce dispositif photovoltaïque existe déjà dans le Vaucluse, mais au-dessus de vignes, c'est la première fois qu'il est installé au-dessus d'arbres fruitiers. Et ça a de nombreux avantages, Adèle Bossard.
Et sur cette parcelle de 2,5 hectares, Michel André a planté plus de 2000 abricotiers. Ils font à peine 1 mètre de haut. Et au-dessus, presque à perte de vue, des panneaux solaires inclinés.
Et grâce à cette structure photovoltaïque, on va pouvoir protéger les abricotiers des intempéries, des canicules, du gel. On a eu des pointes de canicule à 42 degrés. Grâce à l'ombrage, on va pouvoir gagner 6 degrés.
Et pour lui, ces panneaux, même peu esthétiques, sont une solution face au réchauffement climatique.
Juste à côté, vous avez des tunnels avec du plastique pour les cultures maraîchères. Donc je ne trouve pas que c'est plus moche que les tunnels. Et puis maintenant, sur tous les vergers, on met des filets aussi pour protéger de la grêle des insectes. Donc de partout, la nature est quand même habillée.
Et l'objectif n'est pas que l'agrivoltaïsme recouvre toutes les parcelles, rassure l'entreprise Sunagri qui finance et qui installe les panneaux. Cécile Magherini est la directrice générale déléguée.
On a 2,5 hectares sur une exploitation qu'en fait 65. Il y a une partie qu'on fait en agrivoltaïsme. Vous avez vu aussi, il y a des serres, il y a des filets. Et c'est comme ça qu'on rend l'exploitation plus résiliente.
D'ici 2 ans, cette parcelle sous panneaux solaires devrait produire jusqu'à 30 tonnes d'abricots.
Et vous verrez les photos sur francebleu.fr. Les producteurs qui attendent beaucoup du projet de loi d'orientation agricole présenté ce matin devant le Conseil des ministres. Le texte prend en compte les revendications portées par les agriculteurs lors de la crise de ce début d'année. Il introduit notamment la notion de souveraineté alimentaire et fait de l'agriculture une notion d'intérêt général majeur. Il simplifie les normes agricoles mais n'évoque pas pour l'instant ni la question des pesticides ni la question des retraites.
Un accident de randonnée à Anne sur le Ventoux hier.
Une touriste belge a fait une chute de 300 mètres dans la combe de Fonfiole. C'est un pin qui a stoppé sa glissade. Elle a été blessée au genou et transportée par hélicoptère à l'hôpital de Carpentras. Dans les Alpes de Haute-Provence, les investigations se poursuivent pour comprendre ce qui est arrivé au petit Émile. Après des ossements, ce sont des vêtements qui ont été retrouvés hier à proximité du hameau du Haut-Vernay, d'où le petit garçon a disparu en juillet dernier. Pour l'instant, rien ne permet de déterminer les circonstances de la mort de l'enfant. C'est ce que souligne le procureur d'Aix-en-Provence, Laurent Grollet.
Jean-Luc Blachon le dit lui-même, les éléments qu'il a présentés hier à la presse ne sont satisfaisants pour personne. Une petite demi-heure devant les journalistes, une trentaine, pour exposer au moins un fait nouveau. Des vêtements appartenant au petit Émile, un t-shirt, des chaussures et une culotte ont été retrouvés disséminés à 150 mètres du crâne, découvert samedi par une promeneuse. On sait depuis hier d'ailleurs que cette femme a enveloppé le crâne, découvert entre midi et 14h, avant de rentrer chez elle avec et d'appeler les gendarmes. Autre indication du procureur sur justement les premières analyses effectuées sur les ossements de l'enfant, analyse qui évoque de petites fractures et fissures post-mortem, ainsi que des traces de morsures par un ou des animaux. Mais Jean-Luc Blachon de préciser qu'aucun traumatisme antémortem, c'est-à-dire avant la mort d'Émile, n'a pu être relevé sur le même crâne. Chute accidentelle, homicide involontaire, meurtre, aucune de ces hypothèses n'est écartée, conclut le procureur, d'où ce sentiment d'insatisfaction.
Les précisions de Laurent Grollet.
France Bleu Vaucluse, 8h05, la situation revient à la normale dans le Vaucluse après les crues de lundi.
Et tous les indicateurs sont revenus au vert sur les cours d'eau du département et côté circulation, à Avignon, les allées de Loul sont rouvertes à la circulation côté Rhône depuis hier soir. Le parking de Loul, lui, doit rouvrir en fin de matinée après nettoyage. C'est ce qu'indique la mairie. Au final, les dégâts sont modérés dans le département, hormis à Apt, où une douzaine de voitures ont été emportées par le Calavon-Coulon sont en cru.
Une usine à gaz, et bien c'est comme ça que les syndicats enseignants qualifient le choc des savoirs.
Une soixantaine de professeurs ont manifesté hier devant l'inspection académique de Vaucluse à Avignon. Ils s'opposent à la mise en place de la réforme dite du choc des savoirs, qui prévoit entre autres l'instauration de groupes de niveau au collège, en maths et en français. Sonia Garcia-Tahar ne voit pas comment cette mesure peut être appliquée en l'état actuel. Elle est professeure de lettres modernes au collège du Mourion à Villeneuve-les-Avignon.
De toute manière, il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de professeurs supplémentaires, on n'a pas de salles supplémentaires. Donc ça va être un enfer aussi pour nos chefs d'établissement, ne serait-ce que d'achincer des emplois du temps qui soient cohérents. Puisque par exemple, dans notre établissement, il y a à peu près 8 ou 9 classes par niveau. Ça veut dire 8 ou 9 classes de 6e, 8 ou 9 classes de 5e, ainsi de suite. Donc imaginez ce que ça signifie si vous avez 9 professeurs de français et de mathématiques qui doivent être disponibles exactement aux mêmes heures pour l'ensemble de toutes ces classes, puisque tous les enfants sont censés être interchangeables et aller d'un groupe à l'autre. C'est un nom, ça s'appelle une usine à gaz. Nous qui sommes en fin de chaîne et qui sommes censés mettre à exécution toutes ces propositions, on se rend compte que là, c'est intenable et ça nous fait tous frémir.
Sonia Garcia-Tahar, professeure au collège du Mourillon à Villeneuve-les-Avignon, mobilisée avec ses collègues hier. Eux aussi se sont mobilisés hier pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Des agents de la Poste se sont rassemblés devant le bureau central cours Jean Jaurès à Avignon. Ils dénoncent la réorganisation du travail au guichet comme dans les tournées, ce qui complique, disent-ils, leurs tâches au quotidien. Certains parlent d'une perte de sens au travail. Vous entendrez Sophie après ce journal. Elle est factrice dans le secteur de Carpentras, c'est le témoignage du jour sur France Bleu Vaucluse.
L'Espagnol à l'honneur pour l'édition 2024 du Festival d'Avignon.
C'est tout ce qu'on sait pour l'instant de cette prochaine édition. Le reste, on le découvrira cet après-midi. Le directeur du festival, Thiago Rodriguez, présente la programmation à partir de 16h30 à la Fabrica. Alors cette année, le festival démarrera plus tôt que d'habitude, le 29 juin, et sera plus court que d'habitude à cause des Jeux Olympiques. Notez que Thiago Rodriguez sera l'invité de France Bleu Vaucluse demain de 7h45 à 8h15 pour commenter cette future édition. Et puis le Petit Palais d'Avignon change de nom. Vous le connaissez, Hugo, le Petit Palais situé tout au fond de la place du Palais des Papes qui regroupe 320 œuvres de primitifs italiens. Et bien l'année prochaine, on n'appellera plus seulement Petit Palais, on l'appellera le Petit Palais Louvre en Avignon. Figurez-vous, Sagette. C'est une façon de rendre plus visible le partenariat qui lie le Petit Palais au très prestigieux musée du Louvre de Paris. Et la maire d'Avignon, Cécile Huel, espère bien faire briller encore plus le site.
C'est de dire aux visiteurs mais il y a deux palais à Avignon. Bien sûr qu'il y a le grand palais, le palais des papes, mais il vous manque quelque chose si vous ne passez pas au Petit Palais, et il vous manque quelque chose de l'histoire de l'art en Europe, et notamment avec les peintres italiens du XIIIe et XIVe siècle. Comme on propose parfois aux visiteurs de visiter à la fois le palais des papes et le pont d'Avignon, là on pourrait leur proposer de visiter le palais des papes et le musée du Petit Palais, ou le palais des papes, le pont d'Avignon et le musée du Petit Palais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque l'année dernière, on a fait un peu moins de 45 000 visiteurs au musée du Petit Palais, alors qu'on en a fait 770 000, qui a été une année exceptionnelle d'ailleurs, au Palais des Papes. Donc on voit qu'il y a quand même un gap, le défi est là. Alors il ne s'agit pas qu'on arrive à ce que tous les visiteurs du Palais des Papes viennent au musée du Petit Palais, mais s'il y en avait déjà 1 sur 10, voire 1 sur 5, on en serait très heureux.
Surtout que ça se touche palais. Quasiment. Il est à côté, le Petit Palais du
oui, il n'est pas très loin, effectivement.
On peut pousser jusque là-bas. Il faut, d'autant que les musées municipaux, on le rappelle, sont
gratuits à Avignon.
Et vous pouvez les visiter.
La météo.